Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver, de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'International, émission diffusée sur les antennes de TV5 Monde, de Radio France Internationale, réalisée en partenariat avec notre confrère Le Monde. Aujourd'hui, une question et un invité. L'invité, Andriy Gratchev, ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev, vous avez été son dernier porte-parole. Et la question, c'est jusqu'où ira Poutine après la crise de Crimée? En quelques mots, on se souvient de cette révolution en Ukraine et puis l'annexion ou le rattachement de la Crimée après une intervention éclair en quelques jours de l'armée de la Russie et un Poutine triomphant. Depuis, comme un relent de guerre froide. Alors avant de vous interroger, Andriy Gratchev, avec Benoît Vidkin du quotidien Le Monde et Sophie Malibaud de Radio France Internationale, rappel de la situation aujourd'hui en Crimée où vous allez voir, les choses ont changé très vite.
Rentrée de vacances à Sébastopol, dans un tout nouveau pays, insiste le professeur. Regardons bien ce drapeau, poursuit-elle. Le cours débute par l'hymne russe. La Crimée est redevenue russe quasi du jour au lendemain. Fin février, des troupes ont déboulé dans la péninsule ukrainienne. Le secrétaire général de l'OTAN dénonce une violation des frontières internationales par la Russie qui ouvre une crise sans précédent en 50 ans.
C'est l'atteinte la plus sérieuse à la stabilité et à la sécurité depuis la fin de la guerre froide.
Une à une, les forces russes se sont emparées des bases militaires ukrainiennes et de Sébastopol, où stationne la flotte russe de la mer Noire. Moscou a parallèlement encouragé le rattachement politique à la Russie et décroché un oui massif au référendum du 16 mars. Une opération commando, sans effusion de sang. Un triomphe pour le président Poutine, ovationné au Parlement.
La Crimée a toujours été et reste une part inséparable de la Russie.
La Crimée, offerte à l'Ukraine en 1954, était une erreur historique. Il fallait réparer cette erreur, insiste le maître du Kremlin. L'ONU, ajoute-t-il, ne peut pas s'y opposer car elle a validé l'indépendance autoproclamée du Kosovo en 2008. Une position jugée inacceptable à Kiev.
Nous ne reconnaissons pas le référendum. La Crimée est une partie intégrante de l'Ukraine.
Pas question de reconnaître l'annexion de la Crimée, renchérissent Washington et les Européens. Moscou est lâché par la Chine, son allié, mais avec son veto, bloque une résolution au Conseil de sécurité. Les Occidentaux constatent leur impuissance, l'affaire n'est pas terminée. Car l'Ukraine s'est rapprochée de l'Europe et a reçu l'assurance d'une aide financière internationale.
C'est un jour historique pour nous.
Une provocation pour Moscou qui mobilise des hommes à leurs frontières communes. Kiev redoute une nouvelle incursion dans l'Est et le Sud, russophone. Poutine s'est érigé en défenseur des russophones. Il les considère menacés au même titre que la langue russe depuis la destitution de Viktor Yanukovych, seul président ukrainien légitime à ses yeux. Derrière cette question sensible de la langue, l'enjeu est géopolitique. C'est la zone d'influence de la Russie. Vladimir Poutine en fait une affaire quasi personnelle. Il n'a jamais digéré le démantèlement de l'Union soviétique. Jusqu'où ira-t-il? C'est toute la question. Les États-Unis et l'OTAN ne recherchent pas la guerre. La solution n'est pas militaire, répète Obama. Mais Moscou doit se retenir d'envahir l'Ukraine à nouveau ou alors s'attendre à des sanctions accrues. Si ça n'est pas une nouvelle guerre froide, c'est un très sérieux coup de froid et un bras de fer aux conséquences difficiles à mesurer.
Voilà pour ce rappel signé par Sophie Goldstein. Vous venez de voir ce rappel, ces quelques semaines, pourrait-on dire. Autant poser la question directement, c'est irréversible, le rattachement, l'annexion, l'invasion, les retrouvailles, selon le camp duquel on se place, entre la Crimée et la Russie?
Pour la Crimée, en termes formels, je dirais que c'est irréversible pour on ne sait pas combien de temps. Par contre, comme dans ce monde, rien n'est irréversible. Je dirais que, pourquoi pas, on peut avoir l'espoir de vivre un jour le retour de la Russie et de l'Ukraine à une autre nature de relation qui rendrait la frontière inexistante, après tout. Enfin, qui est-ce qui s'intéresse à la frontière entre la France et l'Allemagne si on discute du problème de l'Alsace?
Quand des troupes sont massées d'un côté ou de l'autre d'une frontière, on a du mal à voir cette frontière comme... Voilà, on a du mal à voir cette frontière comme invisible.
Oui, attendez, c'est pas pour aujourd'hui.
D'accord.
Je vous ai pas dit que c'est pour aujourd'hui. Mais pour l'instant, voilà, on est obligé à constater, c'est du côté ukrainien que la frontière entre la Crimée et l'Ukraine est fermée.
Ça fait partie d'une stratégie globale de la part de Poutine, ce retour en Crimée.
Écoutez, ne tombons pas ni dans la simplification, ni dans la théorie des complots. Il y a encore 3 mois, Poutine, soyons sérieux, n'avait pas une idée de ce que un jour Crimée pourrait lui tomber comme un fruit mûr, offert en cadeau en quelque sorte par l'implosion du système politique du régime ukrainien, en quelque sorte de l'effondrement
de cette méditation de Poutine. Il se disait pas un jour ou l'autre je mettrai la main sur la Crimée.
Mais bien sûr que non, puisqu'il y a encore 2 ou 3 mois, Poutine d'une part a proposé à l'Union européenne une formule tripartite de la gestion du dossier ukrainien, enfin de son association avec l'Union européenne, une proposition qui a été rejetée par la Commission européenne. Ensuite, Poutine a suggéré a mis 15 milliards de roubles sur la table, et ceci ne supposait aucunement, enfin, un échange de la Crimée pour qu'il deviendrait russe. Et troisièmement, quand même, soyons précis, voilà la nuit fatale, en quelque sorte, fatale pour Yanukovych, en présence des 3 ministres allemands, français et polonais, et avec un représentant russe à côté, Poutine a imposé, a convaincu Yanukovych d'accepter les termes de cet accord. C'est vrai que cet accord... Voilà, a implosé quelques heures plus tard, puisqu'elle n'a pas passé la ratification par Maïdan.
On peut avoir quand même une autre lecture des événements quand on sait que Poutine considère la chute de l'URSS comme le plus grave événement du XXe siècle.
Oui, à mon avis, il doit avoir regretté beaucoup de fois cette formule, parce que, enfin, il a essayé de se corriger par plusieurs autres. Il a dit, en continuant, comme toute formule tirée de contexte, enfin, elle exige, si vous voulez, d'être remise dans le contexte. Il a dit, par contre, je dirais que celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, celui qui chercherait à le reconstruire n'a pas de tête. Mmh. Voilà, donc, si vous voulez, l'ensemble des... Poutine, c'est comme ça.
Dans ce qui est prévisible à horizon humain, disons d'une vie humaine, la Crimée est russe, pourquoi est-ce que Poutine masserait, selon les Américains, quelques 100 000 soldats à la frontière de l'Ukraine? Il veut aller plus loin ou c'est une menace diplomatique?
À mon avis,
il veut conquérir d'autres territoires.
Écoutez, ça ne vous a pas échappé. Je ne suis pas le porte-parole de...
Vous étiez de Gorbatchev. En effet,
voilà,
on sait comment ça s'est terminé.
De ce président de la Russie. Donc, évidemment, je peux pas vous donner, enfin, toutes les idées cachées de la tête de Poutine. Mais moi, enfin, ma lecture des faits est la suivante. C'est que Poutine attend voir quelle va être la réaction occidentale, d'une part, mais quelle va être aussi l'évolution de la situation en Ukraine, parce que, soyons sérieux, la crise ukrainienne est loin d'être résolue. Pour l'instant, nous sommes face à un régime, enfin, à un gouvernement qui n'est pas sorti des urnes. Elle est sortie de la manifestation de Maïdan, on peut dire de la rue, enfin, ou de la place, si vous voulez. Donc, c'est un régime qui doit passer par la légitimisation, pas seulement formelle, enfin, le processus électoral, mais elle doit se confirmer en tant que pouvoir accepté et légitime pour l'ensemble de l'Ukraine.
Ou au moins... Ces militaires, ces troupes russes, elles sont défensives ou potentiellement offensives?
Donc, à mon avis, ces troupes à la frontière, elles doivent, enfin, dans la tête de tous les généraux, enfin, comme d'ailleurs les troupes de l'OTAN, ou les avions de l'OTAN qui survolent les frontières, des pays baltes et de la Biélorussie. Enfin, elles doivent être les cartes prêtes à jouer dans l'imprévisible. Qu'est-ce qui va être l'imprévisible? On ne sait pas, parce que personne ne peut éviter un autre, enfin, je dirais, l'aggravation du scénario du cauchemar ukrainien, c'est-à-dire l'éclatement du pays.
Et justement, qu'est-ce que vous en pensez des réactions européennes et occidentales, plus largement, les États-Unis également? Puisque vous dites que, donc, Poutine, lui, agit en réaction aux Occidentaux.
Il y a une condamnation
curieusement,
de l'ONU.
Enfin, et vous me pardonnerez l'expression, mais il y a des raisons de qualifier cette action de Poutine comme réactive. Bon, je dirais pas défensive, même si, si ma mémoire est bonne, le général de Gaulle, en qualifiant l'entrée des troupes soviétiques et de l'autre pays des pactes de Varsovie en Tchécoslovaquie, l'a qualifié comme action défensive. Et il a eu raison, politiquement. Pourquoi? Parce que dans la tête de Poutine, politiquement, c'est la réaction et la défense de quoi? De son régime, bien sûr. Enfin, de sa vision du monde et de la place de la Russie dans cette nouvelle configuration mondiale, mais surtout de ses positions à l'intérieur de son propre pays, parce que il n'a pas voulu à ce que l'exemple de la révolution de Maïdan fasse tache huile, et que, enfin, l'opposition à Poutine, qui est bien là, qui est bien présente, s'inspire de l'exemple où la rue peut changer, enfin, le régime.
Sophie Malibaud, puis Benoît Vidkin.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même un aspect offensif? Aujourd'hui, on apprend désormais que le président, enfin l'ancien président Yanukovych, est décidé à, enfin, encouragerait des référendums dans toutes les régions d'Ukraine. On voit ce que ça pourrait donner si ce sont des référendums conduits dans l'est du pays, comme ça l'a été en Crimée.
Franchement,
sous la menace des troupes massées à la frontière.
Je suis vraiment embarrassé. Soit Yanukovych se présente pour le dernier président légitime de l'Ukraine, et donc en cette qualité, il devrait normalement être préoccupé par le maintien de l'intégrité
de son pays, ou
au moins de la souveraineté de son pays.
C'est un peu après
Soit, il renonce à son statut, et alors, Enfin, dans quelle fonction ouais. Bon, mais à mon avis, Yanukovych s'en sort, ce qu'il parle, ce qu'il prononce n'intéresse pas grand nombre de gens.
Benoît Vidkin.
On a du mal à comprendre, quand vous expliquez ce qui s'est passé en Crimée, vous donnez plusieurs pistes qui vont dans des directions différentes. Il y a une part de pragmatisme qui est de punir l'Ukraine pour avoir voulu s'écarter du giron de Moscou, une part de pragmatisme pour faire peur aux contestataires à l'intérieur même de la Russie, et il y a une part d'attachement presque charnel, à vous écouter, entre un attachement charnel au souvenir de l'Empire fut-il soviétique. Je vais le demander autrement, qu'est-ce qui motive Poutine? Est-ce que c'est de l'ordre de l'idéologie, ou est-ce que c'est de l'ordre du pragmatisme pur et de la défense d'intérêts au coup par coup?
L'idéologie, je dirais pas. Le pragmatisme, si vous l'appelez, le qualifierez comme l'idéologie, peut-être. Autrement, je dirais que Poutine... Vous voyez, curieusement, à mon avis, Poutine, c'est un produit des deux facettes très différentes. Ça peut vous amuser, mais je dirais que d'une part, il est l'élève de ce qui était sa première école du KGB, mais sa deuxième école, c'était les 25 ans de l'observation de la scène internationale et du comportement de l'Occident à l'égard de son pays suite à la fin de la guerre froide. Poutine a dû prendre comme expérience et comme leçon de ce comportement occidental le fait que son pays, autrefois empire, superpuissance, grand pays du monde, a été traité comme soit une nullité, une valeur non existante, soit comme un pays vaincu dans la Troisième Guerre mondiale.
Non, c'est ça. Il faut comprendre Poutine par le prisme de cette humiliation. C'est ça qui fait bouger le personnage.
Oui, de l'humiliation, mais aussi, je dirais, c'est quelqu'un qui essaye de tirer les conclusions, enfin, dans ce monde froid. Froid, qui, pour lui, doit être un monde qui est... peut-être pour le bien, pour le mal, mais c'est un monde de l'équilibre de force, un monde de double standard. Il croit que, par exemple, s'il y a des cas comme Kosovo, comme Irak, comme Afghanistan, comme la Libye, c'est-à-dire quand l'Occident, qui se considère le grand maître et le grand gérant de ce monde sorti de la disparition de l'Union soviétique, pourquoi pas sa Russie, à partir du moment où elle s'était redressée après la crise de la transition, ne peut pas se comporter de la même façon.
Mais est-ce qu'il associe ce qui s'est passé à Kiev, à l'Irak, à la Libye, au Kosovo ? Je vous le dis autrement, est-ce que il voit ça comme une grande manœuvre des Occidentaux, comme une partie d'un grand jeu géopolitique, ou bien parce que vu d'un observateur extérieur, ça semble difficile de réduire ce qui s'est passé à Kiev à une simple manipulation occidentale. On a eu l'impression d'avoir affaire à un vrai soulèvement populaire. Donc est-ce qu'il croit sincèrement uniquement à cette version du grand jeu occidental ? Et ça m'intéresserait de savoir, vous également, comment vous interprétez ce qui s'est passé à Kiev.
Voilà, bon, écoutez, moi et Poutine, il doit y avoir forcément la différence d'appréciation. Je n'exclus pas que dans la tête de Poutine, vu sa formation, l'offensive occidentale dans ce qui est représenté autrefois la zone de la présence naturelle de la Russie est une offensive stratégique. Et que donc,
contre lui, contre Moscou, contre le Kremlin.
Contre la Russie.
Mais il a voilà. sa propre initiative.
Et donc, à mon avis, il a dû prendre les événements de Kiev, à Maïdan, comme une manifestation de cette, je sais pas, complot, de cette offensive, qui ne dit pas son nom, occidentale, peut-être à partir du moment où l'accord entre les ministres européennes plus la Russie, qui prévoyait une période de la transition, les élections rapprochées, donc avancées d'un an, et pratiquement l'évacuation de Yanukovych. Donc à partir de ce moment que cet accord a été annulé par Maïdan et que le pouvoir à Kiev est passé entre les mains de la fraction, de son point de vue, la plus radicale, la plus extrémiste, la plus anti-russe, pro-occidentale de l'ensemble des forces politiques qui étaient présentes au Maïdan, qui certes ne représentaient la majorité, puisque pour moi, Maïdan, vous demandez cette fois mon opinion, voilà, pour moi, Maïdan, c'est l'expression d'un échec politique de Poutine. Bon, sans parler de l'échec de Yanukovych, parce que ça représentait une réaction naturelle et logique à cette tentative de Poutine. En jetant sur la table les 15 milliards de dollars, se rachetait en quelque sorte et sa loyauté à l'égard de la Russie.
André Gratchev, nous allons bientôt faire un point sur l'actualité. Nous vous interrompons quelques instants. Je voudrais quand même, avant de terminer cette première partie, vous redemander, vous diriez quoi ? Au fond, bien joué Poutine, bravo, il a réussi, il n'y a pas beaucoup de réactions internationales, il a réussi ce retour ou cette annexion, comme on voudra, de la Crimée. On peut le présenter comme ça, et puis pour solde de tout compte, les frontières vont se geler, se figer d'une certaine façon. Tout le reste, c'est un peu de l'apparence diplomatique, militaire, mais on a quelque chose qui est irréversible et qui n'ira pas plus loin. C'est ce que vous nous dites avant la pause ?
Non, je dirais, je sais pas si j'aurai le temps de tout dire avant la pause.
Mais on parlera après, vous inquiétez
voilà,
pas.
Voilà, mais je dirais que tout dépend de qu'est-ce qu'est l'objectif de Poutine. Si son objectif, c'est le maintien de son pouvoir, peut-être parce que, non seulement du point de vue stratégique, mais aussi du point de vue du soutien populaire, voilà, il a réussi, ouais. Il en sort gagnant. Par contre, pour ce qui concerne les intérêts de la Russie dans le monde et la perspective de sa réussite, la réussite de la Russie dans ce nouveau monde, à mon avis, il se trompe du siècle, peut-être de sa propre société.
Merci André Gratchev. Je rappelle que vous êtes écrivain, historien. Vous avez été conseiller diplomatique et porte-parole de Mikhaïl Gorbatchev, l'autre grand numéro un et dernier numéro un soviétique. Beaucoup de questions encore à vous poser sur Poutine jusque quand, sur la place de la Russie dans le monde. Avant cela, nous allons faire un point de l'actualité sur les antennes de Radio France Internationale et sur celles au pluriel de TV5 Monde.